Le rythme des marchés financiers, c'est la seconde, puisque les transactions financières se font maintenant à la milliseconde, donc un millième de seconde. Vous imaginez le temps du politique européen à 27 pour se mettre d'accord. Ça s'appelle la démocratie. C'est encore plus compliqué à 27 que tout seul. Et donc, voilà, je crois qu'une des raisons fondamentales de la crise, c'est le décalage entre le temps des marchés et le temps du politique, notamment du politique européen, parce qu'on a mis en place des systèmes démocratiques, mais qui prennent forcément du temps, parce que, encore une fois, c'est plus compliqué de se mettre d'accord à 27 que tout seul.
Pascal Canfin est originaire d'Arras, il est député européen et élu dans la circonscription Île-de-France sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. En juin 2010, à son initiative, 22 députés européens chargés de réglementer les marchés financiers et les banques lancent un appel à la société civile pour qu'elle crée une organisation non gouvernementale capable de développer une contre-expertise sur les activités menées sur les marchés financiers par les principaux opérateurs tels les banques, les compagnies d'assurance, etc. La constatation qu'il en tire est alarmante. En effet, sur les marchés financiers, la plupart des investisseurs gagnent de l'argent en misant sur l'augmentation de la valeur des actions ou obligations qu'ils achètent, mais certains font l'inverse en pariant sur la baisse de certains titres. Ces vendeurs à découvert ont été accusés de profiter du malheur des autres et d'augmenter le coût des emprunts pour les gouvernements. L'objectif de Pascal Canfin dans la négociation de ce texte est que ces activités soient plus encadrées pour diminuer les risques sur les marchés. Objectif atteint, l'Europe va interdire un produit financier qui permet de spéculer sur les dettes des États. Il était présent lors d'un café citoyen organisé par Europe Écologie Les Verts à Arras pour nous donner sa vision et son analyse de la crise de l'euro et la crise de l'Europe de manière plus générale, mais aussi pour faire entendre les propositions d'Europe Écologie Les Verts afin de remédier à cette crise. Nous l'avons rencontré juste avant sa conférence. On aborde avec lui les derniers événements de la crise, les agences de notation, le fameux triple A et les solutions envisageables pour sortir de cette spirale financière virtuelle par le biais de ses propositions.
Pensez-vous du compromis mercosien vous proposant la rédaction d'un nouveau traité qui renforcerait la rigueur budgétaire pour redresser la zone euro?
Deux choses importantes. La première, c'est qu'on pourrait faire beaucoup de choses aujourd'hui sans avoir à changer les traités. Changer les traités, c'est un processus qui va prendre au moins un an. Si on le fait de manière démocratique, en associant les parlements, en associant la société civile. Et donc, on a besoin d'une réponse beaucoup plus urgente que simplement s'engager dans une réforme des traités qui aboutira au mieux dans un an si l'ensemble des États arrivent à se mettre d'accord. Et donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire dès aujourd'hui, c'est d'aller vers de l'harmonisation fiscale avec les pays qui le souhaitent, pas forcément même en faisant un traité, mais en prenant les mêmes décisions au même moment, de taxation des plus-values, de taxation des dividendes, de taxation de lutte commune contre les paradis fiscaux, ce qui permettrait de faciliter pour les États la collecte de ressources fiscales supplémentaires sans taper sur les classes moyennes, sans taper sur les salariés, sans taper sur les fonctionnaires, sans taper sur les allocations chômage, sur les PME, sur les artisans, mais en ciblant ceux qui, depuis des années, utilisent la concurrence fiscale pour échapper massivement à l'impôt. Ça me semble être une chose fondamentale si on veut aller vers une réduction des déficits qui est nécessaire, mais le faire de manière juste. Le deuxième élément, c'est que la seule réduction des déficits, et aujourd'hui Sarkozy et Merkel ne se mettent d'accord que là-dessus, la seule réduction des déficits, c'est absolument pas la solution à la crise de l'euro. On peut même considérer que Si elle est prise dans un paquet plus global, ça peut être un élément de la solution, mais sortie de ce paquet plus global, toute seule, c'est plutôt un élément de crise supplémentaire. Parce que si vous faites de l'austérité généralisée en Europe, vous allez diminuer, vous allez avoir une récession, donc vous allez avoir une augmentation du chômage, vous allez avoir pour les États une baisse des recettes fiscales, et donc vous allez aggraver les déficits. Donc c'est même contre-productif d'un point de vue de pure soutenabilité financière.
Avec les démissions successives des chefs de gouvernement italiens et grecs, est-ce qu'on n'assiste pas à une prise de pouvoir des marchés au détriment des politiques? Et qu'est-ce que vous proposez, vous, pour remédier à cela?
Effectivement, il y a eu depuis 2 ans beaucoup de spéculation des marchés financiers, des grandes banques, des fonds spéculatifs sur les dettes des États. Et moi, au Parlement européen, j'ai été le négociateur, le responsable de la négociation d'une directive qui va entrer en vigueur en 2012 pour interdire certaines formes de spéculation des marchés financiers contre les États. Sans rentrer dans le détail, c'est un produit financier qu'on appelle les CDS, qui sert normalement d'assurance contre le risque de faillite d'un État. C'est-à-dire que si vous détenez un peu de dette italienne ou de dette grecque, vous pouvez vous assurer contre la faillite de l'Italie ou de la Grèce. Sauf que ce produit financier était utilisé de manière purement spéculative, c'est-à-dire que vous n'aviez même pas besoin de détenir cette obligation, vous pouviez juste acheter l'assurance. Quand vous achetez l'assurance, forcément, ça fait augmenter la perception du risque. Hein. S'il y a une maison dans la rue et que tout le monde l'assure contre le risque d'incendie, vous vous dites, c'est peut-être parce qu'il va vraiment y avoir un incendie. Et donc, du coup, ça fait augmenter la perception du risque, donc augmenter le taux d'intérêt. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Grèce et ce qui s'est passé en Italie pour des raisons largement spéculatives. Donc, la première chose à faire, c'est aller beaucoup plus loin que ce que l'Europe fait aujourd'hui, même si sur ce combat-là, on a réussi à gagner en matière de frein à la spéculation sur les marchés financiers. Le deuxième élément, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. Je pense que c'est, encore une fois, essentiel si on veut rétablir de la justice dans la fiscalité et dans les politiques publiques. Le troisième élément, c'est que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les agences de notation, dont tout le monde dit qu'elles ont pris le pouvoir en quelque sorte, elles sont beaucoup plus écoutées par les politiques que par les marchés eux-mêmes. Moi, je discute beaucoup avec des banquiers. C'est mon travail au Parlement européen, puisqu'on fait toutes les règles en matière financière. Ils me disent, non publiquement, en privé, ils me disent « cet objectif de discipline budgétaire, de réduction massive des déficits pour atteindre le fameux 3% en 2013, c'est totalement absurde. Et c'est absolument pas ça qui va nous permettre de conserver le triple A. » Et quand vous regardez les propos qui sont tenus le plus officiellement du monde par les agences de notation, lorsque vous lisez les documents, ce que personne ne fait, quand vous lisez les analyses, jamais, jamais ils disent « vous devez réduire les déficits de 3% ». Ils parlent de la Banque Centrale Européenne, qui aujourd'hui n'intervient pas pour aider les États, qui devraient pouvoir le faire comme aux États-Unis, comme au Royaume-Uni. Ils parlent des risques liés à l'austérité et à la récession. Et il parle de la fragilité du système bancaire. Voilà. Donc tant que l'Union européenne n'apporte pas de réponse à ces trois risques et ne change pas ses politiques là-dessus, elle ne rassurera jamais les marchés. Et donc on est dans une impasse complète qui est que les politiques qui sont menées, non seulement elles ne rassurent pas les marchés, mais en plus elles font gravement peur aux citoyens, parce que derrière ça veut dire moins de dépenses publiques, moins de services publics, plus de chômage, etc. Et donc on est vraiment en train de rater, si vous voulez, à la fois l'objectif social et l'objectif purement financier.
Justement, ce triple A, j'allais y venir. Devant donc cette soi-disant menace de ces agences de notation, baissent les notes de certains pays européens, et la France en l'occurrence, en tant que simple citoyen et consommateur, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter et avoir peur de ce déclassement ?
Les agences dégradent la note de la France et des autres pays de la zone euro, ce qui devient le scénario le plus probable, puisqu'on ne parle pas que de la France, on parle aussi des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Autriche, même voire maintenant de l'Allemagne. Si vous voulez, l'impact, paradoxalement, sera moindre. Pourquoi ? Parce que imaginez que vous soyez un fonds de pension. Vous gérez des centaines, des milliers de milliards de dollars de recettes de cotisants et vous les placez sur les marchés financiers. S'il n'y a plus personne qui est triple A, puisque si les pays de la zone euro ne sont plus triple A, il restera trois États au monde triple A. C'est-à-dire que plus personne n'est triple A. Ben, ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Donc vous continuez à prêter aux mêmes, sauf qu'ils ne sont plus triple A. Donc si tout le monde est dégradé, ça ne changera rien, ou très peu de choses. En revanche, si seule la France l'est, mais que les autres pays de la zone euro ne le sont pas, là, il y a un risque, effectivement, de déport, en quelque sorte, des marchés vers les autres pays. Mais le scénario le plus probable, compte tenu de l'interdépendance, et c'est ça le mot-clé, c'est que nous sommes dans des économies interdépendantes. Aucun État ne peut s'en sortir tout seul de cette crise. Et c'est parfois la tentation allemande de dire... Nous, on est vertueux, on va s'en sortir tout seul, laissons les autres se débrouiller. Le fait qu'une agence comme Standard & Poor's ait, la semaine dernière, annoncé qu'elle pouvait aussi dégrader l'Allemagne au même titre que les autres, c'est un gros coup de massue sur la tête en Allemagne, parce que ça leur a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas les bons et les mauvais, mais il y avait une interdépendance européenne à laquelle ils n'avaient pas non plus, ils ne pouvaient pas échapper.
On a l'impression qu'en donnant leurs analyses, bah justement, ces agences de notation provoquent la panique chez certains investisseurs. Cette panique, évidemment, elle se répercute à travers les systèmes politiques mis en place. Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter l'influence de ces agences qui ont plutôt un impact négatif? Et selon vous, comment?
Je pense qu'au-delà des agences, ce qu'il faut limiter, c'est le pouvoir des marchés financiers. Les agences n'étant qu'une des briques de ces marchés. Comment on fait? Il y a deux façons de faire. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est renforcer un certain nombre de règles, interdire un certain nombre de produits, de pratiques qui sont aujourd'hui monnaie courante sur les marchés financiers, qui n'apportent strictement rien en termes de financement de l'économie réelle, des entreprises ou des États, mais qui ne sont que des pratiques spéculatives. Donc il y a un élément réglementaire, aller au-delà. Le deuxième élément, et c'est peut-être le plus important, c'est construire ce que j'appellerais une démocratie financière. Concrètement, lorsque vous mettez votre argent dans une banque, vous ouvrez un plan d'assurance vie ou même vous ouvrez un compte d'épargne tout simple, que devient cet argent? Si c'est un livret A, il est fléché, il va financer le logement social. Si c'est tout le reste, il part sur les marchés financiers. Et il vient nourrir le pouvoir des marchés qui ont très peu d'argent en propre. L'immense majorité de l'argent qu'ils utilisent, c'est l'argent des retraités ou des futurs retraités pour les fonds de pension, c'est l'argent des épargnants français qui souscrivent un plan d'assurance vie, etc. Or, vous n'avez plus de contrôle sur ce que le gestionnaire de votre argent fait. Et c'est ça, le fond de l'affaire, c'est comment on construit des mécanismes de démocratie, de contre-pouvoir, de contrôle, de traçabilité pour rendre des comptes, comme on l'a fait dans les entreprises, avec les comités d'entreprise, par exemple, ou les syndicats, comme on l'a fait évidemment en politique, où au final, c'est quand même les citoyens qui choisissent d'élire, de réélire les uns ou les autres. En matière financière, on ne l'a pas fait. Et donc je pense que créer des instances de démocratie financière pour obliger les gestionnaires de fonds à suivre des règles qui ne sont pas simplement... on leur donne un mandat et ils gèrent notre argent et on ne sait pas ce qui se passe, mais ils suivent des règles beaucoup plus précises en disant, ben voilà, vous n'avez pas le droit, par exemple, de spéculer contre les dettes de la zone euro, parce qu'on considère que c'est notre bien commun, que moi, en tant qu'épargnant, je n'ai aucun intérêt, même si je gagnais 0,2% d'intérêt, de taux d'intérêt en plus, c'est vraiment pas mon intérêt à moyen terme que la zone euro s'enfonce dans la crise et que mes enfants soient au chômage parce que j'ai voulu gagner 0,2% de plus de taux d'intérêt en ce pays. Voilà. Donc ça, si on arrivait à construire ces mécanismes-là, on diminue considérablement le pouvoir d'arbitrage des marchés financiers. Et puis le dernier point, c'est le fait que les États puissent se financer directement auprès des citoyens. Très bon exemple en Belgique, il y a quelques jours, la Belgique et l'Italie ont fait des emprunts populaires directement auprès des gens, sans passer par les marchés financiers. Ils ont obtenu beaucoup plus d'argent qu'ils n'en avaient besoin au moment où ils ont émis leur nouvelle dette, et avec un taux d'intérêt plus faible. Tout simplement parce que les gens ont confiance dans leur État. Ils sont prêts à financer. Et ça permet de casser complètement, de passer au-dessus des marchés et de leur retirer le pouvoir. Si on faisait ça de manière massive, je pense qu'on sortirait de la dépendance des États vis-à-vis des marchés.
Les Les Français vont-ils devoir encore se serrer la ceinture ? Existe-t-il d'autres solutions politiques et économiques à cette suprématie des marchés ? Pascal Canfin nous soumet son analyse et sa vision alternative.
Est-ce qu'on peut craindre un nouveau plan d'austérité en France ?
Probablement. La question est de savoir s'il sera avant la présidentielle ou après la présidentielle. Mais si la ligne politique et l'objectif d'atteindre 3% du déficit en 2013, qui est à la fois partagé par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, est gravé dans le marbre un nouveau traité européen, et que c'est vraiment un carcan dont on ne pourrait pas sortir... Oui, par définition, il y aura 1, 2, 3 nouveaux plans d'austérité, comme il y a eu en Grèce, 1, 2, 3, puis 10 plans d'austérité, comme en Italie, Mario Monti en a déjà fait 2 nouveaux, et comme il y en aura un nouveau en Espagne dans les prochains jours. Et on voit bien que cette destruction de valeur qu'on est en train de faire dans toute l'Europe, elle est en train de faire écrouler le château de cartes, et elle nous mène dans une récession extrêmement profonde. Et c'est ça absolument qu'il faut changer. Ça ne veut pas dire ne pas être responsable. Ça veut dire clairement avoir un objectif crédible de réduction des déficits, mais se donner 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans de plus pour avoir des marges de manœuvre et faire en sorte qu'on puisse aussi investir, par exemple, dans l'économie verte, dans la conversion écologique, parce que on ne va pas sortir l'euro de la crise uniquement en réduisant les déficits. Il faut inventer les nouveaux emplois, il faut inventer une nouvelle compétitivité dans un monde où les ressources, les matières premières sont chères, où le pétrole est cher. Et donc tout ça, ça demande une capacité d'investissement. Et évidemment, si on met tout l'argent qu'on a pour réduire les déficits, on ne peut plus investir. Et donc on se prive, y compris de la compétitivité de demain.
Que pensez-vous du référendum islandais sur la dette publique, donc pour adresser la facture de la crise à ceux qui l'ont provoquée ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement établir une sorte de moratoire européen afin de rééquilibrer une démocratie européenne ? Est-ce que Europe Écologie Les Verts proposerait ce genre de référendum ?
Alors, ce qu'on propose, je ne sais pas si ça doit passer par un référendum ou pas, mais comme mesure, ce qu'on propose, et c'est pour répondre à votre question sur l'Islande, c'est de vraiment s'interroger sur ce qu'on peut appeler la dette de crise. C'est-à-dire la crise de la dette actuelle, c'est quoi ? C'est une dette de crise, c'est-à-dire 20 points de produit intérieur brut. Donc la dette de l'État français, par exemple, était un peu au-delà de 60% en 2008, avant la crise financière. Elle est près de 90% maintenant. Donc on a pris un peu plus de 20 points de dette supplémentaire. Et c'est pareil en Allemagne, c'est pareil dans d'autres États. Ces 20 points, ils ne sont pas dus à, tout d'un coup, la gabegie des services publics et des fonctionnaires qui ont doublé leur salaire, etc. C'est juste parce que l'État, à un moment donné, face au risque d'écroulement de l'économie en 2008, a fait les plans de relance. Et ce sont les mêmes qui ont fait les plans de relance, donc qui se sont endettés pour faire ces plans de relance, qui disent « Ah, mais maintenant, c'est insupportable et on a trop de dettes ». C'est la conséquence de leur action. Et c'est légitime. S'ils ne l'avaient pas fait à l'époque, on aurait été dans une situation encore plus catastrophique. Donc l'enjeu, c'est quoi ? C'est de considérer que ces dettes de crise, en fait, ce sont quelque part des dettes de guerre. Et qu'est-ce qu'on fait avec des dettes de guerre ? On les rééchelonne. Ça veut dire qu'on repousse leur remboursement. Au lieu de vous les rembourser dans 2 ans ou dans 3 ans, mais je veux dire, je vais vous les rembourser dans 10 ans. Je m'engage à vous les rembourser. Vous ne perdrez pas 1 euro en capital. Par contre, vous retrouverez cet argent plus tard. Et je pense qu'au fond du fond, quel que soit après les mécanismes intermédiaires, toutes les étapes, etc., on va arriver à une situation où on devra isoler cette dette, la rééchelonner et rembourser vraiment les gens. Il ne s'agit pas de leur faire perdre du capital. Hein. Si vous êtes épargnant et que vous avez des dettes, l'obligation italienne, dette italienne, vous n'avez pas spécialement envie que ça vaille zéro demain. Donc, mais par contre, vous pouvez être prêt à ce qu'on vous rembourse en 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus. Bon. Je pense que ce mécanisme-là, on y tend. C'est compliqué parce que ça demande une négociation. Est-ce que ça doit passer par un référendum ou pas ? Je ne sais pas. Mais la limite par rapport à l'exemple islandais, c'est que l'Islande a pu le faire parce que d'autres États, notamment le Royaume-Uni et les Pays-Bas, se sont substitués à elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas remboursé les dettes de ses banques. Elle a dit « faites faillite ». Et puis finalement, ce sont d'autres qui les ont remboursés. Bon. Donc, ce qui est valable pour un État, ne peut pas être valable, évidemment, pour l'ensemble des États, par définition.
Quelle est votre vision d'économiste sur la mise en place d'une monnaie alternative, comme le sol, et qui est par définition une proposition à une économie beaucoup plus solidaire ?
On est, Europe Écologie, 100% favorable au développement des monnaies locales. On pense qu'il faut vraiment conserver l'euro, parce que c'est le symbole d'une Europe politique, c'est le symbole d'un esprit européen contre un nationalisme et des souverainismes. Mais en même temps, on peut tout à fait articuler le fait d'avoir l'euro pour les agences internationaux, pour l'économie, qui va bien au-delà du local, et puis pour les circuits locaux, quand vous faites appel à quelqu'un qui va vous réparer quelque chose chez vous, ou qui va vous donner un cours de cuisine ou un cours d'anglais, ou toute cette économie locale, qui va venir vous couper les cheveux chez vous, enfin toute cette économie locale qui ne dépend absolument pas de la mondialisation, ni même de circuits nationaux ou européens, elle pourrait tout à fait fonctionner sur la base d'une monnaie qui n'est pas convertible en euros, c'est-à-dire que ça reste sur le territoire, et ça permet de financer certaines activités, pas toutes, en complément du revenu et du circuit économique traditionnel en euros. Donc on y est vraiment très favorable, et les territoires qui ont expérimenté ça, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, et maintenant à Toulouse, où c'est en train de se développer de manière importante, sont très contents de cette solution.
Pour terminer, quelques mots sur la campagne d'Eva Joly ?
Oui, moi je pense que c'est Eva, c'est vraiment quelqu'un qui bouscule les codes politiques. Alors, ça fait pas forcément plaisir aux journalistes politiques, ça fait pas forcément plaisir à la sphère parisienne qui ronronne, mais je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui s'insère clairement dans la République, dans la démocratie, dans une France ouverte sur le monde, ouverte sur l'extérieur. Et on est là-dessus, par exemple, favorable au droit de vote des étrangers aux élections. On est favorable à une Europe fédérale. On est vraiment sur une logique d'ouverture. Mais en même temps, on n'est pas dans une logique de conformisme où on répète finalement plus ou moins toujours les mêmes politiques. Et donc je pense que cet espace-là, il existe dans la société. Il y a une attente dans la société et que Eva, elle incarne en plus, Eva Joly, elle incarne vraiment, de par tous ses combats dans sa vie, une exigence de justice et d'éthique dont on a vraiment besoin pour sortir de la crise.
C'était Pascal Canfin, député européen, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires et également conseiller d'Eva Joly sur les questions économiques. Il était présent à Arras lors d'un café citoyen proposé par Europe Écologie Les Verts. Pour info, lors du Conseil européen visant à renforcer la discipline budgétaire de la zone euro, 26 pays membres sur les 27 ont approuvé ce nouveau plan de rigueur. Seuls les Royaume-Unis ont apposé leur veto.